集。Avec Yann Marceau et Pascal CV.
Un excellent lundi.
Boulevard 102.1.
C'est ce qu'on vit. Température s'améliore. En fin de semaine, ça a fondu. Je sais pas si vous découvrez les petits trésors de vos animaux de compagnie sur le terrain, mais moi, j'ai ramassé avec ma bête de 110 livres à la maison. C'est un Golden Tata. J'ai ramassé 10 chaudières. 10 chaudières de petits cadeaux autour de la maison. Ça faisait un méchant champ de mine, je peux vous le dire. Mais là, c'est réglé. Il reste encore certains secteurs où il y a de la neige, mais pas grave, tranquillement, mais sûrement. On s'en va vers l'été. Actuellement, sur Québec, c'est 11 degrés, maximum de 14 pour aujourd'hui. Demain, mardi, c'est de la pluie, maximum de 8. Mercredi, de la pluie intermittente avec un maximum de 7. Et jeudi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 7. Et vendredi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 12 degrés. Quelques trucs à vous jaser. Ce soir, 19h, c'est la diffusion du podcast d'Audrey Pinchot, qui s'appelle Sex Tape, son podcast. C'est un podcast qui est super intéressant. Et ce soir, il y a un invité particulier, c'est un furries. On va démystifier tout l'univers des furries. Est-ce que c'est réellement un univers sexuel? Si oui, à quel point? Donc, l'invité d'Audrey Pinchot ce soir est Colia, qui a apporté effectivement son fameux suit de furry.
Et, hey, c'est plus impressionnant que je pensais.
Vous pouvez le voir sur la page Facebook. Ça peut coûter des milliers de dollars, ce petit costume-là.
Mais ça semble d'un gros toutou.
Oui.
Ben pas, tu sais, chien, oui, toutou, mais comme toutou... mascotte, là.
En fait,
je pensais que c'était
ça.
Plus masque de cuir. Fait que j'ai hâte de voir aussi les tendances chez Furry. Là.
Donc, un gros merci à la boutique Érotique au 7e ciel pour commanditer ce show-là. Et en ce mois d'avril, ben des cadeaux gratuits, 10, 25 et 50 $ là. Donc, passez à la boutique 911 Charouest ou encore Marché Jean Talon et au 7e ciel, .com. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est au bout du fil. Salut!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Connais-tu l'univers des furries, toi?
Non, pas par ça.
Tu connais pas ça? Bon, ben, t'écouteras le podcast d'Audrey Pinchot ce soir à 19h, mon ami. Ça se peut que t'aies des questions à me poser demain.
Ah, vois-tu, moi, j'en ai, parce qu'il paraît que c'est les poppies, celui avec le cuir, versus les furries, c'est plus un toutou.
OK, voilà,
c'est Nicolas, poppies. On va être tous branchés ce soir, OK?
Oui, demi-dove, ça glace ce soir à 19h, Nick.
C'est bon, mais écoute, c'est quoi? C'est des bonhommes en fourrure? Écoute, je traduis ça mot pour mot. Là. C'est comme ça que ça sonne dans ma tête. Là, bon. Mais que j'écouterai ça tantôt, puis j'essaie de me faire une idée demain qu'on en reparlera.
Demain, quand on en parlera, il veut revenir en
onde. T'habites à Laval, t'es collé sur Montréal. Tu sais que dans certains secteurs sur l'île de Montréal, il y a des gens qui ont des goûts particuliers. Et les furries, il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Les poppies, il y en a beaucoup dans ce secteur-là. C'est un univers, mon ami.
Oui, d'imaginaire entre animaux et humains. Fait qu'il n'y a pas de conceptualisation juste avec du cuir, là.
Mais
tout le monde s'éclate.
S'il faut que je parle comme si tout le monde qui m'écoutait, c'était des enfants de 4 ans, c'est des mascottes qui font des mamours ensemble.
OK, c'est drôle, ça manquait tellement pas à ma vie, ces détails-là.
Hey, Nicolas, juge personne.
J'en parlais tantôt avec Denis, fait qu'on ne parlera pas du prix plancher là, qui va être aboli dans les prochains mois, mais on va parler des élections fédérales. Est-ce que le prochain gouvernement va s'attaquer au profit de la vente de ma maison, si je vends ma maison?
Ben, écoute, c'est une crainte qui est quand même légitime parce que, mine de rien, là, ça n'a pas vraiment fait commenter ça. Il n'y a pas eu beaucoup de débats et d'échanges là-dessus. Ça a été quand même passé en catimini. Et pour ceux qui ne savent pas, au cours des dernières années, la Société canadienne de l'hypothèque et du logement a quand même dépensé pour moins de 500 000 $ pour mener une étude et pour connaître un peu l'opinion publique à savoir si on pourrait imposer un impôt sur la valeur de l'équité d'une propriété. Parce que, comme vous le savez, l'impôt sur le gain en capital, on n'en paye pas quand on vend notre propriété principale. Mais il y a quand même plusieurs institutions et groupes de la société civile qui sont intéressés, dont quand même une société d'État canadienne qui a prévu de le faire au cours des dernières années. Et pas juste ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais quand vous remplissez vos déclarations d'impôt auprès de Revenu Canada, vous devez indiquer entre autres la valeur de votre propriété dans la déclaration, même si elle n'est pas prise en considération. Mais ça, jusqu'à maintenant, c'était optionnel ou à la limite, on laissait entendre ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau s'était intéressé, du moins quand Trudeau était au gouvernement, s'était intéressé intéressé à l'idée de peut-être imposer un impôt sur le gain en capital d'une propriété, donc essentiellement une equity, une home equity tax, comme on dit en anglais. Là, on a fait une sortie, en fait, vendredi dernier pour interpeller les partis politiques et, heureusement, il y a au moins un parti, celui des conservateurs, qui ont pris la balle au bon et qui ont dit eux-mêmes qu'ils n'allaient jamais s'engager dans cette direction-là et qu'ils allaient espérer que Revenu Canada, une fois qu'ils sont au gouvernement, pas juste espérer, mais qu'ils vont les forcer essentiellement à retirer cette obligation à fournir des détails par rapport à la valeur de votre propriété. Donc, ceci étant dit, on espère que Carney et Singh et les autres qui aspirent à être premier ministre vont se pencher sur ce dossier-là, parce que si on est content d'entendre parler des baisses d'impôts à certains égards, comme c'était promis dès le début des élections, ou que la taxe carbone pour les consommateurs soit disparue, on veut pas que ce soit remplacé par d'autres mécanismes comme une taxe sur la valeur de votre propriété. Donc, imaginez si vous vendez votre maison après avoir payé l'hypothèque pendant des années, et vous retrouvez à payer un impôt sur de l'argent qui était déjà imposé de votre propre revenu que vous avez mis sur la valeur de votre maison dans le but de libérer de la valeur de l'hypothèque. Donc, tout ça étant devant nous, on espère que le gouvernement n'ira pas de l'avant, puis on espère que les politiciens vont prendre la balle au bon puis s'exprimer sur le dossier.
Mais ça serait épouvantable pour les boomers, puis on le sait, c'est les boomers qui votent pour le Parti libéral du Canada. Tu sais, pour ceux qui ont acheté leur maison dans le temps à 60 000, Nick, puis qui revendent leur maison aujourd'hui à 450 000, 500 000, tu sais, c'est vrai qu'ils se font une bonne passe d'argent, là. Mais je prends une jeune femme comme Pascal, qui vient à peine d'atteindre la trentaine, qui s'achète une maison, elle trouve un conjoint qui a du bon sens. Finalement, c'est pas le conjoint qu'elle pensait. Fait que 2 ans plus tard, elle quitte. Là, tu as le 5 % que le courtier va se prendre sur la vente de la maison, plus le gouvernement qui va vouloir se payer aussi.
Puis la valeur n'a pas vraiment augmenté.
La valeur a augmenté à peine. Il ne te restera plus rien. Le gouvernement va tout aller chercher, là.
Ben c'est ça, puis surtout que on s'entend que d'un, c'est une manière assez sournoise d'aller chercher des revenus supplémentaires
ben oui.
sur le dos de générations qui ont travaillé toute leur vie pour acquérir une propriété, puis l'entretenir, puis ensuite la revendre ou peut-être la transférer à leurs descendants, à leurs enfants. Mais d'un autre côté, c'est que le gouvernement a quand même compris, puis ça c'est à travers l'étude qui avait été menée justement par la fameuse société de l'hypothèque des logements, que en fait la valeur des propriétés a quand même explosé au cours des dernières années. Je pense que ça, on l'a tout observé, la réalité du marché immobilier entre avant la pandémie et après, c'est deux mondes complètement différents. Mais quand on prend une échelle sur 10 ans ou 25 ans, c'est quand même assez atroce, en fait, la différence de la valeur des maisons quand on regarde ça sur les 25 dernières années, par exemple. Donc, c'est clair que le gouvernement sent une opportunité d'aller chercher des revenus assez intéressants là-dessus. Et en même temps, on se dit, ben, si le gouvernement ne veut pas imposer une telle taxe, pourquoi est-ce qu'il dit à Revenu Canada d'évaluer, en fait, ou de demander aux gens de fournir cette information-là? S'il n'a pas l'intention d'aller chercher une taxe là-dessus, ben, il devrait se garder une petite gêne et pas cueillir de l'information qui est essentiellement pas confidentielle, mais qui est pas nécessaire, à moins bien sûr qu'il prévoit aller chercher cet impôt-là. Donc, on maintient cette pression-là parce qu'on espère justement qu'on va pas créer une nouvelle taxe qui va être carrément injuste, là, parce qu'imaginez si vous voulez laisser votre propriété à vos enfants plus tard, ben là, ils vont devoir non seulement payer un impôt au niveau du capital et de l'avoir, mais en plus, ils vont avoir un impôt supplémentaire sur la valeur de la maison. Donc, ils vont être très perdants, mais inversement, des gens qui ont acquis une propriété au cours des dernières années vont être pénalisés injustement à cause de l'augmentation des valeurs qui a été observée au cours des dernières années.
Incroyable. T'as-tu lu la chronique que je t'ai envoyée de Michel Girard dans le Journal de Québec? C'est la chronique de samedi.
Oui, peut-être en diagonale, parce que j'avoue que j'ai été pogné sur 2-3 dossiers en même temps, là, mais oui, relance-moi là-dessus.
Moi, j'aime beaucoup Michel Girard. D'après moi, il est sur le jeu d'or au parti d'employés de tous les gouvernements, là, que ce soit le gouvernement provincial ou encore fédéral. Il est fait souvent mal paraître, et encore une fois, samedi, il a fait mal paraître le gouvernement de Mark Carney. C'est les Québécois qui vont être victimes d'une discrimination fiscale de la part du nouveau premier ministre du Canada. On dit que sous prétexte que le Québec et la Colombie-Britannique faisaient bande à part avec la mise en place de leur propre système de taxe carbone, Mark Carney a décidé que les Québécois et leurs cousins de la Colombie-Britannique n'avaient pas le droit de bénéficier du cadeau de... Écoute ça, là, c'est presque 4 milliards de dollars que Carney va octroyer d'ici la fin avril. On est-tu en élection présentement? Ah, OK, oui, excusez. D'ici la fin avril, à titre de paiement final de la remise canadienne sur le carbone, et ça fait suite à l'abolition par Mark Carney de la taxe carbone fédérale depuis le 1er avril. Et par personne, Pour le premier adulte, ça va être de 110 à 228 $. Le deuxième adulte, c'est 55 à 114 $. Puis pour chaque enfant, ça va être de 27 $ à 57 $. Et la taxe carbone n'existe pas, mais on va quand même avoir le chèque à la grandeur du Canada. N'existe plus, mais on va quand même avoir le chèque à la grandeur du Canada, sauf Québec et la Colombie-Britannique. Sauf que cet argent-là n'existe pas, donc ça va être un déficit à combler. Et je suis pas mal persuadé que le Québec, que l'Ontario, que la Saskatchewan, que l'Alberta, on est pas mal tous dans le même panier là, quand on envoie notre impôt au gouvernement. Donc s'il y a un manque à gagner de 4 milliards parce que lui a décidé de le distribuer au Canada, sauf deux provinces, ben c'est nous qui vont devoir combler ce manque à gagner de 4 milliards de dollars-là. On va devoir participer à ça.
Oui, effectivement, mais parce qu'il faut le rappeler, puis il faut vraiment que le message passe pour tout le monde. La taxe carbone existe encore au Canada. La loi n'a jamais été abolie, et la réalité, c'est que ce mécanisme-là, peut-être qu'il a été suspendu le 1er avril dernier et que l'intensité de la taxe a été mise à zéro, mais vu que la loi est toujours en vigueur, à chaque année, puis comme c'est le cas à tous les trimestres à peu près, il y avait des remises sur le carbone qui étaient envoyées aux familles par rapport au montant qu'ils payaient. Et là, le problème, ben du moins, c'est comme un... Au début, c'était un beau problème. Là, c'est rendu un problème pour nous. Mais la réalité, c'est qu'au départ, les gens payaient l'augmentation de la taxe carbone qui entre en vigueur le 1er avril. Puis, il y avait une remise qui était faite initialement dès la fin du mois d'avril. Et puis, après, il y en avait une seconde et ainsi de suite. Mais là, dans ce cas-ci, vu que la taxe carbone ne s'applique plus, il y a quand même des revenus qui doivent être versés aux gens. Et ça, c'est en fonction de la loi sur la tarification qui est toujours en vigueur. Donc, en réalité, Mark Carney, là, avant de lancer des élections, il aurait peut-être été mieux de rouvrir le Parlement et de carrément éliminer la taxe carbone dans la législation plutôt que simplement baisser l'intensité, parce que là, on se retrouve avec effectivement des provinces qui n'ont pas participé à la taxe carbone fédérale, mais qui en payent carrément le coût malgré tout avec des transferts et des remboursements qui sont émis aux familles qui payaient la taxe carbone directement. Donc, c'est une drôle de particularité. En même temps, le Québec était avantagé à ne pas faire partie de la taxe carbone fédérale au cours des dernières années, parce qu'il faut rappeler que la taxe carbone d'Ottawa était beaucoup plus chère que celle qu'on paye au Québec présentement. Pour donner une idée, nous, c'est environ 9 à 10 cents par litre d'essence que ça représente, mais dans le reste du Canada, le 1er avril, c'est supposé monter à 20 cents par litre d'essence. Donc, on est dans une autre réalité complètement. Cette inégalité-là, elle se fait sentir encore aujourd'hui parce qu'on est rendu la seule province à payer la taxe carbone, et on est aussi la seule qui n'a jamais eu le droit à ces chèques de remboursement. Et là, par-dessus le marché, on est ceux qui payons pour les chèques de remboursement des autres qui ne payent plus la taxe carbone. Donc, c'est vraiment un monde sans queue ni tête, mais à la fin, je pense que ça démontre à quel point il y a eu tout un show de boucan initialement qui nous faisait croire que la tarification sur le carbone était effectivement chose du passé, mais le mécanisme de la loi sur la tarification du carbone implique à la fois la taxe carbone et les mécanismes de remboursement, et ça ne peut pas être aboli tant qu'on n'ouvre pas le Parlement pour abolir la loi complètement.
Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on est en pleine élection fédérale, et le gouvernement actuel, Mark Carney, qui est le premier ministre du Canada, sans avoir été élu par les Canadiens, envoie carrément de sa poche 456 $ qu'on va devoir rembourser. Là. Dans les familles canadiennes, exact. 456 en période électorale, ça peut faire une différence, là?
Ben, puis on a quand même vu comment ça a fait une différence au Québec. Là, je veux dire, nous, on a vu ça, les fameux chèques de 500 puis de 600 $ ou 400 et 600 $ Donc, des aides ponctuelles comme ça, ça peut faire effectivement une différence. Je sais pas à quel point c'était calculé par Carney, par exemple, mais c'est sûr que ça joue un peu à son avantage au niveau de la perception de ce que les gens vont voir. Ils vont dire, ben, non seulement je paye plus la taxe carbone, mais en plus, je reçois des remboursements. Mais il faut rappeler une chose. À la fin de la journée, ça, on va espérer que le message soit clair pour les Canadiens quand ils vont se rendre aux urnes. Mais la taxe carbone, elle les a plus pendant plusieurs années, depuis aussi longtemps qu'elle était en place, ils étaient constamment perdants. Donc, oui, ils reçoivent peut-être un chèque de remboursement, et là, c'est au détriment des Québécois puis des Britanno-Colombiens, ouais, qui ne devraient pas avoir payé pour ça. Mais en réalité, le reste du Canada a été constamment pénalisé. Ils ont payé plus que ce qu'ils ont reçu au niveau économique et au niveau de l'impact sur les prix. Et ça, c'est à prendre en considération au final. Donc, c'est bien beau les chèques qu'ils reçoivent présentement, mais est-ce que ça va compenser pour ce qu'ils ont perdu au courant des dernières années? Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'un chèque qui arrive à la dernière minute minutes juste avant de voter, ça peut faire la différence dans la tête de certains. Puis oui, on peut décrier ça. La même manière que je décriais la semaine passée que le gouvernement Mark Carney annonce 150 millions de dollars de plus pour Radio-Canada en pleine élection, je veux dire, je me gardais une petite gêne avant de promettre l'argent à des médias en pleine élection. Parce
exact.
Que ça aussi, ça peut avoir un impact sur comment l'élection va être couverte. Donc, au final, c'est une drôle de pratique qui ne devrait pas être acceptable.
Nick, je dois te laisser partir. Je sais que tu as une grosse journée. Il faut que tu ailles aller magasiner ton costume de furry. Il faut que je te laisse partir puis on se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Oui, avec grand plaisir. À très bientôt.
Salut, bye-bye. L'excellent Salut, Nicolas Nick. Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, à qui on parle chaque semaine. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable.ca.
C'est capoté quand même, Yannick, le top 5 de l'actualité est sorti pour la semaine passée. Là. Puis ce qui attire le plus l'attention des gens, ben, en première place, c'est la campagne électorale fédérale. Fait qu'on est vraiment là-dedans, la couverture médiatique de cette campagne-là. La deuxième place au Québec, ça revient à la suspension des tarifs réciproques par Donald Trump. Ça, c'est quand même fort. Discuter. Après, Demidov qui est là en troisième position. Je veux dire, ça a éclipsé pas mal de nouvelles. La quatrième, c'est le scandale de la SAAQ Click. Fait quand on pense que peut-être les gens sont tannés et veulent pas en entendre parler de ce scandale-là, ben c'est encore très, très près des gens. Puis finalement, ben c'est la dernière place au Canada, mais elle est occupée par quelque chose qui nous concerne pas ici en province. Parallèlement au fédéral, oui, c'est la guerre en Ukraine.
Ah oui.
Qui est encore en cinquième place dans ce que les gens consultent de l'actualité.
Quand il y a des éclipses médiatiques, là, des fois, des sujets très importants prennent le bord. T'sais, à mes yeux, à moi, bon, je suis content que Demidov arrive à Montréal, là, mais la guerre en Ukraine est un peu plus importante.
Mais moi, je suis surprise que les gens donnent encore autant d'attention. Je suis contente, mais souvent, dans un conflit qui perdure,
ouais.
Où c'est complexe, on décroche.
Mais tout ça pour dire que quand il y a un nouveau joueur qui arrive chez le Canadien, là, c'est une bonne journée pour annoncer une mauvaise nouvelle
pour une entreprise ou encore
pour un gouvernement. Midi 47, vous désirez nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Communiquez avec nous, c'est par texto. On s'arrête. Boulevard.